Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission 100% Foot. Nous sommes de retour. Patrick est à mes côtés pour cette nouvelle émission de cette nouvelle saison. Thierry nous rejoindra dans quelques temps, pas aujourd'hui, mais très prochainement pour parler de ce que nous allons justement discuter avec Patrick de cette nouvelle saison. Mercato très riche en ce qui concerne l'Olympique de Marseille et un début de saison qui n'est pas flamboyant. Alors, Patrick, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et on est reparti pour une année qu'on espère bonne, même si le début nous refroidit singulièrement. Mais on va en parler.
Voilà. Soyons confiants, Patrick. Oui. Donc nous allons peut-être, et nous allons parler également du football, non pas amateur, mais en l'occurrence Martigues est passé dans le rang des amateurs à présent. Donc Aubagne est présent en National cette année. On va pouvoir parler de leur championnat qu'ils ont démarré, ils sont à la 4e journée. Et nous allons parler également des féminines de l'Olympique de Marseille qui vont commencer leur championnat la semaine prochaine. En Ligue 1 Arkema, cette fois changement de division avec un niveau beaucoup plus supérieur auquel elles étaient habituées à jouer. Maintenant, bon, commençons cette émission en parlant de l'Olympique de Marseille et de ce championnat qui a démarré il y a quelques semaines. Nous avons disputé la 3e journée du championnat ce week-end. Voilà, alors on peut parler très rapidement des résultats de cette 3e journée de Ligue 1. Voilà, bon, alors vite fait, il se trouve que Lens a battu Brest 3-1. Lorient a été défait par le LOSC 7-1. Nantes a battu Auxerre 1-0. Toulouse, évidemment, s'est fait écrabouiller en début de saison par le PSG 6-3. Angers et Rennes ont fait match nul 1 partout. Le Havre a battu 3-1 Nice, un match assez spectaculaire. Monaco a battu Strasbourg 3-2. Une défaite de Strasbourg un peu étonnante, mais logique dans ce match. Alors voilà, il y a le Paris FC qui a battu Metz 3-2. Et pour terminer cette journée, dimanche, évidemment, on a clôturé l'affiche. Lyon a battu l'OM 1-0, malheureusement. Oui. Alors on peut commencer justement à parler de cet effectif, justement, et de ce match qui s'est disputé, le dernier match en date. Nous sommes donc à la 3e journée de ce championnat. Avec beaucoup de bouleversements au niveau du mercato, une équipe peut-être nouvelle et certainement qui va apparaître et sur les prochains matchs, nous risquons d'avoir de nouveaux visages et pas que, justement, en défense, peut-être au milieu, dans la composition et dans la tactique que sera abordée justement par notre entraîneur Roberto De Zerbi. Alors voilà, sur ce match que nous avons perdu face à Lyon 1-0 dans les dernières minutes, voilà, nous allons pouvoir justement en parler, Patrick.
Alors, on pourrait dire qu'il y a des... Alors, sans tomber dans le catastrophisme et dans le... Comment dirais-je, le simplisme et le... Je dirais pas le truc anti-marseillais, c'est idiot, ça veut rien dire, mais que tu as dans les médias nationaux, on fait de l'audience en parlant et... Voilà, en étant catastrophique et en racontant n'importe quoi.
Une fois n'est pas coutume.
Voilà, mais on a un problème qu'on a eu cet été, c'est que l'idée de départ, on le rappelle, c'est les déclarations de Longoria, de Benatia et tout, c'était on va chercher la stabilité, ce qui est une très bonne chose.
En effet, c'est ce que nous attendions.
Voilà, tu as un groupe qui est arrivé second, qui a fait une saison correcte dans l'ensemble, et tu te dis, je garde la majorité de l'équipe, j'ai les automatismes et je renforce mes points faibles. En oubliant un petit détail, c'est que pour renforcer, le mercato est ainsi fait que les mecs, tout le monde te demande des sommes astronomiques pour des joueurs et que les joueurs que tu vises, ben, tu n'arrives pas à les avoir. On a eu l'exemple puisqu'on est mardi, même si l'émission sera en ligne mercredi, on a eu le cas hier, puisque hier c'était la fin du mercato, où tu arrives à avoir Naïef Aguerd, le Marocain qui joue à West Ham en Angleterre, que tu voulais acheter en juin, qui
était vrai.
la priorité de Benatia, et que tu n'as pu avoir que le jour West Ham qui demandait 30 et quelques millions, eh ben, vu que le joueur n'était pas parti, ils ont baissé le prix, tu l'as eu à 21 plus 2. Voilà.
Très belle transaction en l'occurrence.
Bonne transaction au niveau de... Mais avec un problème, c'est que tu l'as le 1er septembre.
Eh oui.
C'est-à-dire que le mec n'a pas fait la prépa. Alors, il a joué avec West Ham, il a été titulaire en première ligue anglaise, il a fait ses matchs.
Il est vrai, cela fait partie de la problématique majeure de ce début de saison.
Donc, si tu veux, au niveau forme, il est en forme, comme Pavard, comme d'autres. Oui. Mais... Il n'a pas fait la préparation avec toi, tu n'as pas pu travailler les automatismes, tu n'as pas pu constituer un groupe, parce que le but de la préparation, on le rappelle, c'est ce que disent tout le temps les entraîneurs, tu constitues ton groupe, les mecs apprennent à se connaître quand tu fais des stages de préparation, et tu mets en place des organisations tactiques.
Bien entendu, d'autant plus que, comme tu le dis si bien, nous avions cette base d'équipe qu'il fallait consolider et renforcer, et il y a eu énormément de changements.
Alors, on n'a pas eu de bol, parce que deux des titulaires que tu avais acheté rapidement, Medina, le défenseur argentin qui vient de Lens, et Peixão, le brésilien qui vient de Feyenoord, qui est un joueur qui, l'année dernière, a fait de très bons matchs en Ligue des Champions contre le Milan AC, contre l'Inter et tout, puisque Feyenoord est allé en huitième de finale et il a tenu sa place, il a été bon, il a marqué, il a fait des passes décisives.
Ça partait sur une excellente base de transfert.
Et les deux joueurs se sont blessés et n'ont pas pu participer au début du championnat. Ce qui veut dire que Peixão, il n'a quasiment pas joué avec l'équipe en préparation parce qu'il était blessé.
Il est prêt, ouais.
Alors, ça, c'est un coup dur, mais ça arrive. Mm-hmm. Le problème, c'est que tu as une équipe qui n'a pas bien fonctionné et tu as été obligé de récupérer. Tu as donc normalement 3, 4, peut-être 5 titulaires qui sont arrivés les deux derniers jours.
Oui.
Ce qui fait qu'il va falloir rebâtir avec des mecs qui n'ont jamais, qui se connaissent pas. Qui n'ont jamais joué avec, certains, la majorité, puisque 4 sur 5 n'ont jamais joué un championnat de France.
Il est vrai.
Il y a que Aguerre des Pavard qui avait joué en Ligue 1.
Le championnat,
mais
évidemment.
Voilà, il y a un paquet d'années, hein, puisque Pavard, il était parti en Allemagne, à Stuttgart, puis au Bayern, et puis Aguerre, il était parti en Angleterre. Quand il a joué à Rennes, il était parti en Angleterre il y a 6-7 ans. Mm-hmm. Donc, ils ont quand même un vécu de Ligue 1, mais c'est pas un vécu.
Bien entendu, mais de là en mettre en place.
Alors que O'Reilly, Vermeulen, Emerson sont des mecs qui débarquent.
Oui, ça va être des découvertes quand même assez.
Et donc c'est quand même compliqué. Ce qui fait que tu te retrouves surtout. Ton point noir à la fin de la saison, on l'avait dit sur cette même antenne en parlant en juin, c'était la défense qui avait
justement,
été très fébrile. Et la défense, tu cherchais un central, tu cherchais un arrière-gauche puisque tu as transféré Merlin, pas assez bon défenseur, ce qui au demeurant, à mon avis, est exact. C'est un très bon contre-attaquant, mais défensivement, il a des grosses lacunes.
Bah, il a montré justement ce bon côté face à Rennes.
Oui.
Enfin, je dirais
nous,
face à l'OM.
Contre nous, il a été très
Rennes,
bon. Mais bon, en général, il avait quand même des lacunes défensives assez criantes, même si c'était un super contre-attaquant. Mm-hmm. Et donc, tu cherchais un arrière-gauche, tu cherchais un défenseur central, un titulaire et un remplaçant. Tu cherchais un milieu pour remplacer Bennacer et Rongier qui a été vendu. Il fallait les remplacer en milieu défensif. Et tu cherchais un attaquant ailier gauche et tout.
Bon, effectivement.
Ton ailier gauche, tu l'as eu, tu l'as payé très cher, Peixão.
Peixão, justement, 30 millions d'euros. Donc notre recrue la plus chère jusqu'à présent.
30 plus 5 de bonus éventuels.
Il ne faut pas l'oublier.
Disons-le, espérons qu'on les paye, parce que ça veut dire que tu as obtenu des résultats.
Positivement,
puisque, si tu payes les bonus, c'est que tu es qualifié en Ligue des Champions ou que tu as eu un titre. Mm-hmm. Voilà. Donc, on espérera les payer.
Voilà. Côté gauche, derrière, évidemment.
Rowe est en partie suite à un incident malencontreux sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Rowe y a dû partir. On a pris Ahmed Traoré Junior, qui est un garçon qui joue à Auxerre l'année dernière, qui était prêté par Brighton.
Lui qui a connaissance de notre Ligue 1, justement.
Oui, qui connaît, puisqu'il a joué à Auxerre l'année passée, qui est un joueur intéressant. mais c'est un remplaçant.
Et qui a débuté la saison deux jours après sa venue à l'OM, justement.
Il a signé le vendredi, le dimanche, il était titulaire à Lyon, quoi. Parce que Peck Shaw est toujours blessé. Et donc, on a récupéré Aubameyang, ce qui est une bonne chose. C'est un joueur de talent. Et c'est vrai qu'on a été bloqué pour des raisons budgétaires. Parce que quand tu vois, par exemple, la grande cible, c'était le joueur équatorien de Bruges, Joël Ordonès, 21 ans, brillant. On dit que c'est l'équipier de Pacho, un charnière central de l'équipe.
C'est ce que nous attendions avant le mercato, lors de cette préparation, pouvoir renforcer cette équipe, l'améliorer en l'occurrence. Et malheureusement, les prix étant ce qu'ils sont, il a fallu attendre. Et malheureusement, on a dû se rabattre sur d'autres joueurs. Peut-être que ça sera une très bonne chose en l'occurrence.
Après, Ordonès, tu te retrouvais avec Bruges, son club. Oui. Qu'on va d'ailleurs rencontrer en Ligue des Champions.
On va en parler dans un petit moment.
On va jouer chez eux. Mm-hmm. On va les jouer en décembre. Et tu te retrouves avec des mecs qui te demandent 40 millions.
Oui, voilà. C'était compliqué de pouvoir rivaliser avec ces offres-là.
Et en fait, finalement, il semblerait qu'ils ne voulaient pas le vendre, puisque finalement, ils ne l'ont pas vendu.
Oui.
Même qu'ils ont mis des propositions d'Angleterre, mais ils ne l'ont pas vendu.
On peut les comprendre.
Voilà, 40 millions, plus des frais d'agent, plus machin. Voilà, et tu ne peux pas. C'est pour ça que tu te retrouves en fin de mercato à chercher les bonnes occasions pour placer tes joueurs que tu voulais dégager, puisque tu en as dégagé plusieurs les 3-4 derniers jours.
Ne l'oublions pas, il fallait évidemment vendre avant de pouvoir justement de pouvoir enrôler des joueurs, voire sans me faire prêter.
Voilà, et donc tu as dégagé au dernier moment. Soit en passant, saluons Derek Cornelius,
absolument,
le Canadien, qui avait déjà un contrat et un accord avec les Glasgow Rangers. Il devait être à Glasgow le dimanche dernier pour signer son contrat. Il a accepté de rester, il était sur le banc après l'expulsion.
Et sa rentrée justement en défense centrale a été très très bonne
ce match-là. Le meilleur défenseur sur le match. Et le mec, il a fait quand même le job, il faut le dire, parce que quand tu sais que tu t'en bats, tu pourrais t'en foutre.
Une conscience professionnelle qu'il en aura.
Il a été correct, mais c'est vrai que tu as Unai que tu as dégagé le vendredi. Tu as
In extremis.
Mumbanya, pareil, jeudi, vendredi. Oui. Tu as dégagé au dernier moment Cornelius. Bamo Meite que tu as prêté à Lorient.
Oui.
Tu es arrivé à exfiltrer des joueurs et en espérant que ce n'est pas fini, puisqu'il y a encore quelques pays qui n'ont pas fermé leur mercato. Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar,
la Belgique également.
On va essayer. Tu as Mopé qu'il faudrait caser.
Il reste Mopé, me semble-t'il, ainsi que Harit éventuellement, et Lirola éventuellement, qui pourrait servir.
Et disons que et donc tu as eu des difficultés et tu te rends compte quand tu regardes ce qui s'est passé hier. Que tu as une quantité d'opérations astronomiques qu'ils ont fait dans les derniers jours.
Dans les derniers moments, c'est terrible.
Oui. Parce que tu te retrouves que, par exemple, Paris demandait 50 millions pour Donnarumma. Évidemment, Manchester City n'a pas payé. Et finalement, il le lâche à 30 millions les derniers jours. Voilà. Après, tu peux te douter que les deux savaient que ça
la
se passerait
comme
mercato,
ça. La valse du mercato étant d'abord une gestion financière, je dirais, bonne à tous les propices.
Et on l'a vu avec notre adversaire de dimanche, Lyon, qui a été obligé de vendre la veille du match son seul avant-centre, Miko Tadze.
Ah, et ça, non.
Parce que 35 millions, les mecs, ils avaient promis à la DNCG qu'ils verseraient 40 millions pour finir la saison. Ils l'ont vendu 35 en Espagne. Donc, ils se sont retrouvés sans avant-centre. Et le mec qui va remplacer, c'est un prêt, un Uruguayen qui jouait à Lens, qui s'est fait les croisés la saison dernière en septembre et qui n'a pas rejoué, qui a joué 2-3 matchs depuis. Et qui,
mais il ne pouvait pas refuser cette vente l'Olympique Lyonnais.
Et Lyonnais, ils avaient promis à la DNCG 40 millions d'ici le 31 décembre. C'était le dernier jour, ils l'ont vendu, quoi. Ah oui. Parce qu'ils sont pas arrivés à... Ils sont pas pu vendre leur ailier gauche belge, Fofana.
C'était une urgence, évidemment.
Ouais. Ils avaient le couteau sur la gorge. Et tu en es dans des situations comme ça. Et tout le monde attend l'occasion pour faire baisser les prix. Et tu te retrouves avec Paris, que ça casse sur Colomuani, qui est quand même un international français. ça casse le, deux jours avant avec la Juve parce qu'ils essaient de faire baisser, de faire baisser. Ils se retrouvent en 24 heures à Tottenham alors que voilà quoi.
Tout va très vite. Faut-il être prêt et présent lors de ces transactions de dernière minute ?
Et d'après ce qu'on sait, je lisais l'équipe ce matin. Paris voulait absolument une option d'achat obligatoire pour Colomouani. Oui. Et finalement, lundi à 18h, ils ont accepté un prêt sans option d'achat à Tottenham. Sinon, ils s'en payaient le mec et son salaire. Et tu, comme Lucien Riquet ne veut pas le faire jouer. Voilà.
L'ensemble de paramètres constituent, je dirais, cette phase de marché. Quoi.
Ah oui. Et ça nous renvoie, par contre, pour revenir à l'OM, à ce que disent beaucoup d'entraîneurs. Qui disent que le mercato devrait s'arrêter quand la saison commence.
Je suis assez d'accord avec cela, mais la problématique reste quand même assez importante.
Voilà, mais après, si tu fais ça, la folie que tu as eue hier avec des centaines de transferts au dernier moment, tu l'auras le 15 août, quoi.
Bien entendu. Voilà. C'est juste reculer ou anticiper la fin. Quoi.
Voilà, le problème pour l'OM, c'est qu'on n'a pas pu prendre qui on voulait. Voilà. Même si Aguerd, tu l'as au dernier moment, le dernier jour, c'était ta cible, tu l'as eu à la fin. Mm-hmm. Les cibles que tu voulais, ben, y en a qui tu t'es fait griller parce que soit Bruges n'a pas voulu vendre Ordonès, soit le joueur est allé à plus offrant, Zegrova par exemple.
Il est évident qu'il ne s'agit qu'une gestion financière, cette valse du mercato. Et les plus riches ne sont pas les mieux servis, mais en l'occurrence, ils sont aidés en ce domaine-là.
Voilà, c'est vrai que tu vois à ce moment-là les problèmes. Tout le monde attend les clubs anglais, parce que les clubs anglais... Ils peuvent te mettre 50 millions sur la table, comme ça.
Ça ne leur fait pas peur.
Le dernier moment. Et donc, tout le monde espère gratter le jackpot. Mm-hmm. Et donc, toi, tu n'arrives pas à recruter.
Comment rivaliser, justement, avec ces clubs anglais ouais.
Alors, donc, le problème, c'est qu'on a fait une préparation dans un style de jeu avec une équipe. Et quand tu regardes l'équipe avec laquelle on a préparé, tu te rends compte que tu auras 4 ou 5 joueurs qui n'étaient pas dans la préparation.
Justement, Patrick, parlons-en. Oui. Commençons par la défense, bien entendu, puisque c'est celle qui était assujettie à de grands renforts. Mais malheureusement, c'est arrivé peut-être 3 jours à 3e journée de championnat et le jour du dernier jour du mercato, justement, qu'on a pu recruter. Alors, on peut parler de gens connus, de gens
de
reconnus et de grande qualité pour beaucoup d'eux.
Avec le problème sur la défense, c'est qu'on avait prévu, on considérait, alors ceux qui ont vu les 3 premiers matchs se demanderont quelle langue on parle, mais on considérait que l'élément fort, c'était Balerdi, le capitaine.
Oui.
Et qu'il fallait un stopper gauche, puisque l'OM avait tenté Brassier, ça n'avait pas marché, on l'a exfiltré. Et c'est Kondogbia qui a dépanné, mais qui n'est pas un défenseur central. Et
malheureusement, nous n'avions pas le choix.
Voilà, on n'avait pas le choix l'année dernière, on a fait comme on a pu. On a même eu Ulysse Garcia en stopper gauche, en fait. Ouais. On s'est débrouillé.
Obligé de moduler en
et
fonction.
Et donc, l'idée était, alors, comme je le disais tout à l'heure, on a pris Medina, ce qui, à mon avis, est en théorie un bon transfert, mais il s'est blessé, il s'est fait une entorse à la cheville.
Voilà, un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à gauche comme dans l'axe.
Qui peut jouer arrière-gauche et défenseur gauche. Et donc, on s'est trouvé avec une défense qui, en match amicaux, n'avait pas été mauvaise. L'anglais Egan Riley avait fait des matchs corrects. C'est un garçon qui est venu libre. Son expérience, c'était la deuxième division anglaise. Alors.
Voilà, et un jeune joueur, nous l'oublions pas.
Voilà, international espoir anglais, mais la deuxième division anglaise, c'est plus un combat physique que la tactique, la technique de la Serie A italienne ou de la Liga espagnole. Hein.
Compliqué s'aligner très rapidement. Oui. Malheureusement, on ne peut pas lui reprocher cette faute qui a été préjudiciable à notre équipe face à Lyon.
À mon avis, on en est d'accord, je pense, Franck. L'erreur, elle est de Balerdi qui fait une passe à la noix.
Ouais, très approximative.
Voilà, il lance Fofana.
Oui.
Seul face au goal, l'autre essaie de tacler. Ouais. Il rate le ballon, il fauche le mec, c'est rouge, il n'y a rien à dire.
Il n'a pas eu le...
Voilà, il aurait peut-être dû ne pas tacler, essayer de...
Oui, un joueur d'expérience, un défenseur d'expérience, l'aurait probablement accompagné le plus possible.
Il aurait essayé de le coincer sur un côté, de l'excentrer. Lui a tenté le tacle, il ne rate pas grand-chose, mais il le rate, il coupe bon, le mec.
Malheureusement, c'est un fait de jeu.
Voilà. Mais l'erreur de départ, il l'a reconnu, c'est Balerdi qui l'a fait. Et donc lui, mais c'est jamais qu'en remplaçant, que tu as pris pour qu'il progresse. Medina blessé, tu te trouvais avec le seul Balerdi, puisque à Rennes, tu as joué avec Kondogbia en défense centrale. Et oui. Voilà. Et là, comme je le disais tout à l'heure, tu es obligé de demander à Cornelius, qui est déjà au Glasgow Rangers, rester sur le et de rentrer quand l'autre est expulsé pour être en charnière centrale et faire son match. Quoi.
D'ailleurs, il a fait un intérim de qualité.
Oui, il a fait un match.
Malgré la défaite qui est, je dirais, in extremis.
Tu as quand même recruté Aguerd, Naïef Aguerd, marocain, 29 ans, qui joue à West Ham en Angleterre. Qui est un joueur qui était une de tes cibles en début de mercato, que tu n'avais pas pu avoir, comme j'ai expliqué, pour des raisons financières, et qui d'ailleurs a consenti une baisse de salaire en
France. J'imagine, étant pensionnaire de West Ham, évidemment.
Il tournait à 600 et quelques mille par mois, il a accepté pour venir à l'OM.
Mais un joueur de qualité, un défenseur gauche qui est
costaud.
Un peu. Au-delà d'être costaud et bon défenseur, enfin, meilleur que Merlin apparemment, mais assez offensif également, qui pourrait apporter...
Oui, c'est un bon relanceur. C'est un gars qui a un très bon jeu de tête, qui est habitué de la Première Ligue. Il a joué 6 ans titulaire en Première Ligue anglaise, qui connaît le championnat puisqu'il avait joué à Dijon en Ligue 1 à l'époque et puis à Rennes.
Oui.
Et qui est quand même le capitaine en second de l'équipe du Maroc, derrière Hakimi, c'est le
derrière
capitaine.
Derrière Hakimi, ouais.
Et qui est un
qui
titulaire...
Qui joue sur le même flanc.
Voilà, qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar. Enfin, voilà, donc je veux dire, un costaud, quoi. Mm-hmm. Et tu as récupéré, alors là, c'est le miracle, Benjamin Pavard.
Oui.
On rappelle ce que moi j'ai appris hier soir sur l'équipe du spécialiste Mercato. L'Inter Milan... où il a été titulaire. N'oublions pas que Benjamin Pavard a joué deux finales de...
Finaliste de la Ligue des Champions, dernièrement.
En 3 ans, 2 fois perdu. Mm-hmm. Et il avait quand même été gagnant avec le Bayern contre PSG l'année du Covid, en 2020. Et donc, c'est un joueur de qualité, finaliste de la Coupe...
Polyvalent, pouvons-nous le dire, mais je pense que ses priorités seraient plutôt axiales et non pas côté droit, comme on a pu le faire jouer parfois.
On se rappelle, on l'a vu en équipe de France, qui ne veut pas être remplaçant de Koundé comme arrière droit, alors qu'il est largement supérieur aux autres joueurs, il veut jouer axial.
On peut le comprendre.
Que ce soit dans une défense à 3 comme à l'Inter Milan, dans une défense à 2 comme au Bayern... ou en équipe de France, là, il a été appelé parce que Saliba s'est blessé. Donc, il est appelé. Il sera probablement titulaire dans les matchs de qualif pour la Coupe du Monde.
D'ailleurs, ils sont en pleine préparation.
Voilà, ils sont en plein
rassemblement. Oui.
C'est un joueur de grande qualité.
Oh, oui.
Et donc, Pavard à Guern, ça devrait te faire une sacrée décharnière centrale.
Voilà.
La question étant...
En même temps, côté gauche, puisqu'on parlait côté gauche, également Emerson Palmieri, un transfuge de West Ham également, comme
arrière-gauche.
Aguerd,
Emerson Palmieri, on explique à nos auditeurs, c'est un joueur brésilien, naturalisé italien.
Donc, il n'est pas extra-communautaire.
Voilà, donc il est italien, comme l'ont été Thiago Motta et d'autres, ou Retegui, l'avant-centre, jouait à l'Atalante Bergame quand on a joué contre eux en Europa League.
On va bientôt les retrouver, mais en Ligue des Champions cette fois.
On va les retrouver en Ligue des Champions. Lui, c'est un Argentin, Retegui.
Oui, oui, oui.
C'est des joueurs, et il était dans l'équipe qui a été championne d'Europe en 2021. C'était le remplaçant de Di Marco comme arrière-gauche.
Oh, que oui.
Et par contre, il a une qualité, c'est que c'est un Brésilien très technique, excellent centreur, très bon contre-attaquant, mais...
Assez rugueux.
Assez rugueux, c'est un Italien, c'est-à-dire c'est Brésilien, le championnat est assez dur, et les Italiens, c'est pas des enfants de cœur. Par contre, défensivement, c'est pas sa qualité première.
D'accord.
Mais tu peux avoir Medina arrière-gauche.
Il est vrai.
Dans les matchs où tu vas jouer, où tu vas te prendre les vagues. Et en championnat contre les équipes un peu moins, tu peux avoir Emerson, qui est quand même un joueur qui a 31 ans, qui a beaucoup d'expérience. et qui est un joueur que tu as eu, bon, tu l'as payé 1 million d'euros, en fait, tu as payé les frais d'agent et tout, mais enfin, je veux dire, tu l'as eu libre, quoi.
Finalement, nous arrivons à finaliser ce mercato quelque part. Bon, ben, il va falloir du temps pour mettre tout cela en place, au niveau tactique, au niveau de la connaissance des uns et des autres, footballistique, pas que. Maintenant, qu'en penses-tu? Quelle va être... justement l'opinion de De Zerbi pour mettre en place au niveau tactique cette défense, va-t-on jouer à 3, va-t-on jouer à 4,
l'option, ouais. Le problème c'est que lui, bon, il a fait toute la préparation en 4-2-3-1, oui. C'est-à-dire 4 défenseurs, un axial droit, un axial c'est gauche ça. Et 2 latéraux, un droit, un gauche, 2 milieux récupérateurs devant la défense, un 10 qui joue plus ou moins en retrait, c'était Rabiot qui tenait ce rôle. Ouais. Et puis deux ailiers qui débordent et bon,
qui jouaient voilà. Après assez voilà. Offensivement malgré ce. Voilà. Mais derrière, mais... donc, il y a l'énigme. Enfin, voilà. Ça n'est pas une. Balerdi, que va-t-on faire de Balerdi selon le schéma de jeu défensif que nous allons avoir?
Alors, Balerdi, le problème, c'est qu'on l'a déclaré intransférable, on n'a pas voulu le vendre. Oui. Il avait des propositions.
C'est notre capitaine.
On l'a pas vendu.
Même temps, ouais.
C'est le capitaine. Bon, il a fait 3 matchs catastrophiques, parce que même contre Paris FC, où on a gagné 5-2,
oui.
Il est sur les buts, il se fait prendre dans le dos, comme à Rennes,
oh,
et,
oui.
Et comme contre Lyon, il se fait prendre dans son dos.
Malheureusement, victime voilà. Coupable d'un but contre son camp.
Oui, voilà. Contre Lyon, il est malheureux, mais il n'a pas été
oui.
Bon. Pas que sur le but, il est malchanceux.
Oui, oui, oui.
Mais enfin, c'est toute la défense qui est nulle. Mm-hmm. Mais lui, il est malheureux. Mais par contre, il a été pris mais un nombre incalculable de fois, soit par Fofana, le Belge, qui heureusement est sorti blessé, parce que sinon, je ne sais pas où on
allait. Cette vitesse, justement, fait du mal à nos attaquants voilà. Qui ne défendaient pas et également à nos défenseurs.
Et l'arrière-gauche lyonnais, Abner, qui n'arrêtait oui. Pas de monter, qui s'est retrouvé 2-3 fois seul face à Rouli. Heureusement qu'Ourouli a fait son match. Ça a été une des
seules. Je crois que ça a été le meilleur noté par les médias. Ouais.
Par les journaux. Mm-hmm. Mais du coup, que va-t-on faire de Balerdi? Mm-hmm. C'est ton capitaine, c'est un des vétérans.
C'est assez compliqué.
Voilà. Et théoriquement, si tu défends à 4, eh oui. Ta charnière, c'est Pavard à Guerre.
C'est ce que je
voilà.
Pense également.
Voilà. Mm-hmm. Alors, à 3 peut-être, mais... Tu as la possibilité, parce que Murillo peut jouer un piston. Oui. Timothy Weah, c'est un piston, c'est pas un défenseur.
On l'avait donc, bien compris.
Voilà, on l'avait bien compris. Et il joue un piston plutôt à droite. Hein, tu
oui,
le mets à
parce
gauche.
Que le faire jouer à gauche était un peu une hérésie.
Voilà,
part.
Il dépanne, mais bon, il fait... Voilà. Et Emerson Palmieri, oui. L'arrière-gauche qui est arrivé de
oui,
West
Ham. Oui, par contre, il pourra.
C'est plutôt un piston.
Oui.
Donc, une défense à 3. Mm-hmm. Mais ça veut dire que tu te retrouves avec un joueur offensif de moins.
Et voilà. Pourrait-on incorporer Balerdi peut-être en milieu de terrain récupérateur, peut-être
oui, parce qu'on se rend compte que moi, je
difficile
veux bien...
Difficile d'écarter le capitaine.
Voilà, je veux bien qu'on critique la défense sur les 3 premières journées. Elle a été catastrophique.
Ah oui, mais ça part du milieu également.
Mais hein. Voilà, c'est aussi que ton milieu, il protège mal ta défense. Quoi, parce
c'est
que
évident.
Tu te prends les vagues et quand les mecs arrivent à lancer, les attaquants ne viennent pas aider et oui. Les milieux ne sont pas là. Tu as les pauvres Højbjerg et Gomez qui essaient de courir, mais...
Qui se démultiplient, mais voilà. Qui n'ont pas la capacité pour
voilà.
L'instant.
Højbjerg, il n'est pas très rapide, on le sait. Et Gomez, on dirait Maxime Lopez.
Pas très costaud, on va
voilà,
dire.
C'est pas, voilà, si le mec met un coup d'épaule, il tombe et c'est l'autre qui passe. Mmh. Quoi, voilà. Donc, à un
juste
moment,
techniquement, mais...
Oui, fin joueur techniquement, mais bon.
Voilà.
Et donc, tu prends des vagues, peut-être il faudrait renforcer, d'où l'idée de dire tu le mets en 6... Un sentinelle devant la défense.
C'est une idée intéressante.
Seulement, si tu fais ça, tu as moins de joueurs à vocation offensive.
Et voilà.
Et le problème, on l'a vu contre le Paris Football Club au stade.
Oui.
On gagne 5-2, je rappelle pour nos auditeurs.
Oui.
Tu as de la chance.
Avec une première mi-temps, justement, où nous aurions
oui,
pu.
Oui, on mène 2-0, puis
on
se prend des buts et
ouais,
tout.
Ouais, ouais.
Et heureusement que Paris FC, ils n'ont pas un grand buteur et qu'ils ont. Qu'ils ont été un peu maladroits.
Oui,
parce qu'ils
ont managé pas mal d'occasions.
Deux, trois occasions nettes hein, que tu peux te retrouver à mener 3-2 à une demi-heure de la fin.
Le scénario aurait pu être différent,
voilà,
malheureusement.
Et heureusement qu'ils font une erreur. Le mec se fait piquer le ballon à 25 mètres.
Ah oui.
Nadir pousse le ballon. Aubameyang avec son, avec son sens du but, il reprend, il marque 3-2. Ouais. Du coup, ils essaient d'attaquer et en contre, tu leur en mets deux. Voilà. Donc ça fait 5-2. Mais enfin, jusqu'à 20 minutes de la fin, tu étais chez toi, devant un promu qui n'est pas extraordinaire. Heureusement que leur défense a commis plusieurs erreurs qui t'ont permis de marquer.
Ce qui nous a permis justement de remporter cette victoire sur les trois matchs que nous avons disputés.
Et notre défense était fragile, le milieu la protège mal, et puis il faut le dire.
Par-delà. Et devant
ceux qui ont vu le match contre Lyon, tu te dis, mais comment se fait que le pauvre Murillo, il voit arriver Malik Fofana et le Brésilien
se retrouve tout seul.
Abner, deux contre un. Où il était l'ailier, ben l'ailier il descendait pas.
Voilà.
Et au milieu personne ne couvrait parce qu'à deux c'est pas pareil qu'à trois où tu as un ailier qui sur le, qui a
donc,
un milieu.
Ces automatismes, tout à fait d'accord avec toi Patrick, que justement il va falloir recréer une symbiose qui n'existe pas, qui a failli exister, qui était plutôt intéressante en fin d'année dernière, mais retrouver avec de nouveaux joueurs justement cette idée de cette cohésion.
Et le problème il est là. Alors, je le redis, avant de critiquer, parce que là, tu lis des critiques, ils avaient dit, ils ont pas
fait. On peut parler de Pierre, Paul, de Jacques.
Tu n'as pas l'argent pour payer. Aguerre, tu le voulais un jour, tu n'avais pas les ronds. Joël Ordonez, qui est un joueur, semble-t-il, très intéressant.
Qui était sur nos petits papiers.
Voilà, tu le voulais, mais tu n'as pas pu mettre 45 millions dessus. Voilà. Ouais. Et il y a des joueurs, Aymeric Laporte, c'était son salaire. Finalement, il va à Bilbao, il rentre à Bilbao. Il a accepté pour Bilbao, qui est son club formateur, de faire un effort.
C'était ce qu'il nous fallait absolument, un défenseur central de
d'expérience. Mais on rappelle qu'il était en Arabie Saoudite, son club en demandait 25 millions. Pour un mec de 32 ans, finalement...
C'est une situation financière très complexe, qu'en faire après.
Voilà, et finalement, hier soir, en dernier moment, ils l'ont libéré, donc il est allé à Bilbao.
Ouais.
Mais voilà, donc c'est pas que les mecs sont pas bons, c'est que tu n'as pas pu, et tu te retrouves à devoir reconstruire une défense alors que la plupart des joueurs sont en sélection dans le cadre de la trêve internationale.
Absolument, ça va être compliqué de travailler avec les absents,
alors,
justement.
On rappelle qu'après la trêve, tu vas récupérer les joueurs. Tu reçois, le vendredi, tu reçois Lorient. Le mardi, tu as Bernabéu contre le Real Madrid en Ligue des Champions.
Oh oui.
Et le dimanche, tu reçois PSG.
Ouais, c'est ça, vendredi 12, nous recevons donc Lorient et l'enchaînement se fait très rapidement, puisqu'ensuite, nous allons enchaîner le 16 septembre avec la Ligue des Champions.
L'Oréal.
Une visite à Madrid qui ne sera pas qu'une simple visite, nous le souhaitons. Enfin, nous verrons bien cela. Et puis l'enchaînement ensuite avec OM Paris Saint-Germain le 21 septembre.
Voilà, et pour combiner jusqu'au bout, le week-end d'après, on ne sait pas encore si ça sera vendredi, samedi ou dimanche, on va à Strasbourg, équipe qui a beaucoup recruté et qui est une équipe solide et compliquée. Et le mercredi...
énormément recruté,
voilà, je crois que c'est le mardi 30 septembre, on reçoit l'Ajax au Vélodrome en Ligue des Champions. Et on reçoit l'Ajax d'Amsterdam, et donc c'est pas des cadeaux, et ça va être compliqué... Avec une équipe où les mecs n'ont pas de vécu et pas d'automatisme, où il va falloir recomposer très vite une équipe. Et on
Premier match à domicile de Ligue des Champions.
On parle de problèmes sur ces quatre matchs. Le Real, bon, je pars du principe que Lorient, pour les avoir vus contre Lille, ils ont pris 7-1 chez eux.
Oui.
Alors, attention. Ils sont à égalité, ils prennent un but, ils attaquent pour égaliser, ils se font prendre en contre, ils foncent comme des jobards.
N'oublions pas qu'ils se sont renforcés défensivement, c'est une blague.
On leur a prêté Bamon Meïté pour les... Voilà, mais c'est une bonne chose,
il
ressort, il revient bien, c'est une bonne chose pour lui.
Dégageons le positif.
Et ça permet peut-être de le vendre à la fin de la saison. Mais disons que c'est une équipe qui est promue, qui n'a rien à perdre. Mm-hmm. Bon, mais comptons que normalement, il ne faut pas non plus.
Oui.
Par contre, Madrid, Paris, Strasbourg, l'Ajax...
Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Tu n'as pas intérêt à te rater, parce que là, si tu te rates, tu peux avoir le feu, parce qu'on connaît le contexte marseillais, on connaît les médias.
Va-t-on pouvoir aligner justement ces nouveaux joueurs la totalité, mais quelques-uns.
On les alignera. C'est sûr, tu ne prends pas Pavard et Aguerre pour les mettre sur le banc.
C'est évident. et il ne désirerait pas l'être à ce moment-là.
Et comme tu as perdu Rabiot, il y a forcément un des deux milieux qui sont venus. Donc, il y a un Danois d'origine irlandaise qui s'appelle Matt O'Reilly.
Qui jouait
à Brighton. Et qui a joué la moitié des matchs la saison dernière en Première Ligue, qui est international danois que Højbjerg connaît bien et qui est prêté.
Oui.
Et il y a un Belge qui jouait, mais qui est jeune, qui a 20 ans ou 21 ans, qui jouait au Red Bull Leipzig.
Oui.
Et qui...
qui serait plutôt milieu offensif, genre numéro 10, ouais.
Non, c'est O'Reilly.
C'est O'Reilly qui serait le Danois,
Lui, il est plus milieu défensif.
Ouais, milieu défensif, Vermaaren, ça nous fait défaut. Ouais.
Alors lui...
Verdaren.
Par contre, 1m89, costaud, donc c'est peut-être... un ratisseur qui serait intéressant.
Voilà, une densité physique qui pourrait nous faisait défaut au milieu.
Voilà, alors avec le problème pour ce jeune joueur, c'est qu'il est parti de Belgique il y a 2 ans. Il est allé à l'Atlético Madrid en prêt. Alors là, il a été à l'école Simeone. C'est-à-dire qu'il faut se battre, il faut y aller. Par contre, il n'a pas voulu l'acheter après, à la fin de son prêt, où il a pas mal joué.
Permet de bénéficier justement de son arrivée.
Il est allé à Leipzig où il a pas mal joué, là aussi, ils l'ont acheté. Ils ont acheté une vingtaine de millions quand même. Mais du coup, comme ils ont d'autres projets, ils nous le prêtent. Oui. Donc c'est peut-être un jeune. À mon avis, ce que j'espère, c'est que ça fait partie de ces joueurs qui partent trop jeunes. Puisqu'il est parti à 18 ans de Belgique, le mec. Tu as joué un an en championnat belge, tu te retrouves à l'Atlético Madrid.
Que ça ne l'handicape pas à présent pour sa progression.
Mais peut-être que c'est un pari, puisqu'il n'est que prêté. L'option d'achat n'étant pas obligatoire.
Et puis Il faut le souligner.
Elle est à 12 ou 15, truc comme ça. C'est un garçon, tu tentes un coup de poker.
Oui.
Après, quand tu n'as pas... Hier, je regardais...
On en est là.
Voilà, à l'équipe, les mecs qui s'extasiaient sur Liverpool, qui a acheté Alexander Isak, le Suédois de Newcastle, 150 millions.
Évidemment.
Il faut avoir 150 millions.
Ils n'existent pas.
Voilà, le Liverpool, ils ont pris donc, Isak, 150 millions à Newcastle. Ils ont pris Florian Wirtz, l'Allemand de Leverkusen, 125. Et ils ont pris Ekitike, futur néo-international français, puisqu'il a été appelé pour remplacer, comme il s'appelle, le joueur qui s'est blessé, en équipe de France.
Oui, ça m'a échappé.
Oui, c'est. C'est Colomiani.
C'est Colomiani.
C'est qui n'est pas pris parce qu'il n'a pas joué. C'est lui qui n'a pas été retenu. Donc, il a été appelé. Mais donc, du coup, ils ont payé 95.
C'est-à-dire, on n'évolue pas dans la même catégorie.
Tu n'es pas sur la même planète. Donc, toi, tu prends ce que tu peux, tu tentes des paris. Et c'est des joueurs qui ont des options d'achat non obligatoires. C'est dans le genre 15 millions, donc c'est pas colossal. Tu tentes, mais est-ce que les mecs vont s'intégrer? Est-ce que ça va marcher?
C'est ce que nous souhaitons de tout cœur. Bon, finalement, Benassia a quand même fait du bon boulot au dernier moment.
Oui, parce que...
Avions-nous le choix qu'il en soit autrement? Je ne crois pas. En l'occurrence, c'est ce qui a été réalisé.
Parce que là, quand même, si je lisais l'équipe ce matin... Tu lis la façon dont ça s'est passé avec Pavard. Pavard, c'était comme Rabiot il y a un an. Le mec, il a osé l'appeler, lui proposer. Le mec, au début, il tourne en disant parce que tu n'as pas de quoi lui payer le salaire. Je rappelle que Pavard, c'est l'Inter Milan qui veut s'en débarrasser parce qu'il a un trop gros salaire. Oui. Je crois qu'il est à 5 millions et demi.
Ils ont d'autres joueurs, justement,
net par an. Donc, voilà, ils ont mis beaucoup d'argent sur Lautaro Martinez. Ils sont obligés de faire un peu attention.
Et donc, ils
nous le prêtent en prenant en charge la moitié pratiquement du salaire.
Fallait-il l'intervention quand même de Benassia pour solliciter
Qui est allé, qui a tenté le coup.
Je me trompe. Quel lapsus.
Pavard. Et du coup, tu récupères un sacré joueur.
Ah oui.
Mais moi, je pense que ce qui te plombe sur ce mercato, c'est on parlait de Rabiot, c'est Rabiot.
Ben oui. On en revient à cela.
Ton meilleur joueur de l'année dernière, c'est un leader, c'est un joueur qui stabilisait l'équipe. Tu l'as vu sur les 3 matchs comment il te manque au milieu, son travail, la récupération.
Cruellement défaut.
Ah, puis le mec, c'est 1m91, c'est une baraque.
Et voilà, quoi. C'est au-delà, c'est pas le seul milieu qu'il était, c'est l'implication et le travail qu'il faisait pour l'ensemble de l'équipe, offensivement et défensivement.
Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il jouait à l'italienne, c'est-à-dire en début de match, il te met un ou deux semelles, il te défonce les mecs.
Voilà, pour calmer les velléités offensives de
l'arbitre vient le voir, monsieur, calmez-vous. Mm-hmm. Oui, excusez-moi, monsieur l'arbitre. Tu fais ça en deuxième mi-temps, tu prends un jaune ou un rouge, mais tu le fais en première mi-temps, on te dit calmez-vous.
Il savait gérer ces situations-là.
Voilà, ça, à l'italienne, hein, c'est vraiment la Juve, tu apprends à filer. Et c'était un mec d'expérience. Et il te manque sur une histoire dont on ne sait pas le fin mot.
Oui. Et puis qui, malheureusement, reste d'actualité dans. L'imaginaire collectif.
Dans le club,
dans le club, évidemment, que les tensions sont sous-jacentes malgré ce, et qu'il reste un traumatisme. Maintenant, il faut passer au-delà de cela, que les nouveaux joueurs se mettent au diapason. Alors, remplacer, non pas l'irremplaçable, mais il va falloir trouver une solution pour justement pallier à cette absence-là.
Oui, après, comme disait ma grand-mère, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Bigre. Mais c'est vrai que le problème de l'histoire Rabiot, ça a fortement pénalisé l'équipe.
Oui.
Parce que tu l'as vu contre Paris FC, tu l'as vu à Lyon. Mentalement, l'équipe...
On les sentait déstabilisés pas tellement mobilisés sur ces matchs-là.
Voilà. Je vais être méchant, mais à Lyon, il y avait une équipe sur le terrain.
Ouais.
C'était Lyon. Ils ont joué en équipe, ils se sont serrés les coudes. Quand ils ont marqué, ils se sont défendus comme des chiens.
Il n'y avait qu'à observer le comportement que nous avons eu en jouant à 10. Quoi. Voilà, je pensais qu'on aurait pu...
Tu as des mecs qui ne sont pas trop revenus défendre alors que tu étais 10 contre 1, tu étais en galère. Ouais. Et donc, tu n'as pas eu une vraie équipe.
Non.
Et à ce moment-là, tu sais que dans le vestiaire, on le sait, tu as des joueurs qui regrettent le départ de Rabiot, qui s'entendaient bien. On rappelle que l'incident à Rennes, l'incident où il y avait tout le monde dans le vestiaire... Des trucs qui arrivent 10 fois par an dans tous les clubs.
Oui.
C'est après, les joueurs sont partis dans le quart. Rowe est revenu.
Généralement, ça se règle en interne, ce genre de situation.
Et l'incident avec Rabiot, là où ils se sont mis des coups, des gifles, c'est après, la seconde fois.
Oui.
C'est là que ça a dégénéré. Et je vois pas comment tu peux régler cette histoire si les mecs s'excusent pas.
Oui.
Rowe a fait le boulot, il s'est excusé, il est parti, il est transféré, les agents ont calmé le jeu.
On savait qu'il devait partir, mais il a été beaucoup mieux conseillé. Ça a été la meilleure manière de se comporter.
Parce que Rabiot a refusé de s'excuser, sa mère a fait des déclarations hallucinantes.
Alors la finalité en ce qui le concerne, finalement, c'est que se transfère au Milan AC pour une somme, me semble-t-il, de 10 millions d'euros, il va bénéficier 10-15. Quand même de 30% des émoluments de ce transfert.
Oui, il touche un tiers du transfert, plus à Milan, ils vont lui payer, il arrive, ils vont lui filer une prime, et sa mère, l'agent, va toucher une prime.
Au-delà du fait qu'il ne disputera pas la Ligue des Champions cette année, je dirais que, il verra ça l'année prochaine.
Voilà, mais le problème, si tu veux, c'est que...
C'est nous que ça pénalise.
Alors, on ne sait pas, je pense qu'un jour, on saura ce qui s'est réellement passé.
On sait tout,
Les infos qu'on peut avoir par des bribes, c'est qu'en fait, la direction de l'OM s'est retrouvée piégée parce qu'ils étaient partis sur... suspension d'entraînement à titre provisoire un jour
pourquoi
ou deux.
Pourquoi enchaîner rapidement pour mettre sur la liste des transférables
Le match était vendredi soir, ils se sont filés samedi, dimanche, ils sont pas arrivés. Quand tu appelles le mec, il te répond pas, difficile de discuter. Mm-hmm. Suspendu d'entraînement un jour ou deux, à titre provisoire, Rob aussi. Les mecs s'excusent, on fait un petit film bidon.
Même s'il était question de se débarrasser de Rowe.
Et Rowe, il s'en va, donc tout le monde dit bon, là, il se filtrait, il s'est engueulé avec Rabiot. Et Rabiot, il devait reprendre l'entraînement mercredi et jouer samedi contre Paris.
Finalement, on n'arrive pas à récupérer notre meilleur joueur.
Et le problème, c'est qu'il ne veut pas s'excuser, c'est que sa mère attaque au lance-flamme et à la tronçonneuse.
Oui.
Tous des connards, des incapables, des crapules, des machins.
Pour rester soft.
Le président, le directeur sportif, l'entraîneur.
L'entraîneur également.
Le problème, c'est quand tu mets l'entraîneur, quid de sa crédibilité vis-à-vis du reste de l'équipe. tu es obligé à un moment donné de dire on s'excuse. Et d'ailleurs, les derniers jours avant la semaine dernière, il y avait sur certains sites de foot, il circulait l'idée qu'il allait faire un truc sur TF1, un truc comme ça, pour s'excuser.
C'est ce que nous attendions voilà, c'est de ce sa que... part.
Et comme le mec n'a pas voulu et que, voilà, et que c'est sa mère, tu ne t'adresses plus la parole, ben, tu te retrouves...
J'imaginais peut-être qu'en interne, en tout cas, qu'il ait pu discuter avec Longoria et voire De Zerbi, justement.
Alors,
pour...
De Zerbi, est-ce que... Le vendredi, il a dit... Il faut
nous avons entendu tous sa conférence de presse.
Et le samedi, après le match, quand tu as vu le match, il a dit « Mais s'il veut revenir, moi, je suis prêt à faire. » Mais bien sûr, tu as vu le match, tu as vu tout
toutes les portes sont ouvertes, voilà. Bien évidemment.
Mais et je rajoute quand même que Benatia et Longoria, qui étaient à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, Longoria, il a dit le fameux... la porte de mon bureau est ouverte pour tous les joueurs sous contrat, y compris
Rabiot. Il a bien précisé pour l'ensemble des joueurs sous contrat.
Pour l'ensemble des joueurs, mais y compris Rabiot.
Benatia n'a pas pipé mot.
Voilà, mais donc si le mec il te dit ça,
c'est Roberto De Zerbi qui a fait dans sa déclaration d'après-match, justement, cette porte ouverte qu'il répétait.
Le club attendait que le mec il s'excuse, ne serait-ce que... Bon, il s'excuse devant l'équipe, il s'excuse auprès de l'entraîneur pour pouvoir essayer de dire « Ok, bon, ben, on efface, ça me fait… » Voilà, quoi, on me fait… Le problème, c'est que quand le mec, il veut pas et que son agent, il met le feu dès qu'il prend
donc
la parole…
Donc, cet incident a été un incident majeur et problématique pour l'ensemble de l'équipe.
Moi, je veux pas tomber dans le complotisme marseillais, machin et tout, mais enfin… Après le match sur Ligue 1 Plus qu'on a regardé, j'étais avec Mojane, mais bon, on regardait le match.
Oui.
On a zappé sur l'équipe du soir.
Oui,
sur
comme nous faisons pour la plupart.
Voilà, pour regarder. Ouais. Sur le match de à Rennes, sur 2h30 d'émission, il y a eu 1h30 consacrée à l'échauffourée
à l'affaire Rabiot.
Et l'affaire Rabiot, elle a fait 1h, 1h30 tous les jours. Dans toutes les émissions de l'équipe.
Évidemment.
Et alors chez Rotel.
Il y a du grain à moudre pour les médias.
Et tout. Mais alors c'était tout le monde. Dugarry a donné son avis. Tout le monde est allé de son truc. Et du coup.
Dugarry qui est assez virulent à l'égard de Zerbi. Il faut le dire.
Le problème des émissions radio, télé, c'est compliqué, mais c'est vrai que ce que les gens aiment bien,
c'est toujours à charge sur une personne.
Donc tu massacres quelqu'un, tu as tes têtes le turc, et c'est jamais bon, quoi. Et ce qui fait que c'est les mêmes qui, si tu fais un bon match, t'envoies une équipe de France, tu rates deux matchs, t'es un bourrin, t'es le melon et t'es un con.
Alors comment retrouver la sérénité, justement, qui...
La seule manière, Franck, c'était d'exfiltrer Radio, comme tu as exfiltré Raw, parce que...
Bien entendu.
Un jeune, que quand les anciens, les cadres, c'est quand même... Il y avait Rulli, Rabiot, Højbjerg. Højbjerg, capitaine du Danemark, ancien joueur de Tottenham en Première Ligue, ancien finaliste de la Ligue des Champions. Rulli, champion du monde avec l'Argentine, numéro 2 de l'équipe, champion olympique avec l'Argentine, un international argentin.
Les bases, les piliers
Rabiot,
de l'équipe.
Les mecs qui te parlent, tu n'aimes pas la réflexion, tu mets un taquet. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu problématique. Donc lui, tu l'as sorti, ok. Mais tu pouvais attendre d'un joueur cadre expérimenté qui te dit « je veux jouer la Ligue des Champions avec l'OM », que le mec, il ait au moins le comportement de dire « j'ai déconné,
j'aurais
pas dû m'énerver ».
Après, on peut parler de gestion de la part de l'entraîneur au niveau peut-être de l'emportement et de trancher sur des décisions, ainsi que de Longoria. Ils ont, alors peut-être on ne va pas se renvoyer la balle sur cette thématique.
Mais c'est sûr que le problème de Zerbi... On le dit volcanique, c'est très affectif. D'ailleurs, tous les joueurs en parlent en disant c'est un entraîneur qui aime ses joueurs.
C'est ce qui attire la plupart des joueurs.
Très proche. Là, on a vu l'arrivée du jeune Ahmed Traoré Junior, qui est arrivé là et qui jouait l'ailier gauche remplaçant, qui a dit il avait joué avec lui quand il est arrivé d'Afrique à Sassuolo. Il dit je rêvais de retravailler avec lui, c'est un mec adorable et tout. L'inconvénient du côté affectif, c'est que...
Ça peut être à double tranchant.
Voilà, ça peut clasher.
Ah ouais, ouais.
Et là, en l'occurrence, moi, je pense que la mère Rabiot, elle a joué un rôle...
C'est évident.
Catastrophique. Parce qu'un agent de joueur, ça te calme. Oui. Ça, voilà,
ça amplifie pas
les... sur RMC, je crois que c'était, Courbis qui disait, tu aurais eu un Bernès, tu aurais eu un mec comme ça, il te calme le jeu, il t'arrange le coup.
Évidemment, ça aurait pu rester justement dans le groupe en lui-même.
Elle, ceux qui ont lu son interview dans La Provence, s'excuser, il manquerait plus que ça, il donnait un nom de quoi. Bon, je veux dire, le président, c'est un con, le directeur
sportif, on en attendait pas moins de sa part.
On en attendait pas moins de sa part. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas volontaire, si c'était parce qu'elle voulait qu'il parte.
Peut-on parler de mauvaise gestion, je dirais, de...
erreur ou volontairement, on n'en sait rien, on le saura sûrement un jour. Certainement une mauvaise gestion de l'OM, parce qu'à mon avis, il s'y attendait pas.
Un timing qui n'était pas...
Voilà, il s'y attendait pas, il s'attendait à ce que disaient d'ailleurs certains anciens joueurs... Johan Micou, oui. Comment il s'appelle, Ludovico Bragnac, Benoît Trémoulinas, Frédéric Piquion sur l'équipe, il disait ces cas-là, le mec s'excuse, on se serre la main entre collègues, on fait un petit film, on est copains, c'est fini les gars, et on essaie que ça en pense.
Des frictions, voire des bagarres, ça arrive très souvent, malheureusement, dans les vestiaires.
Mais après, le mec qui refuse de s'excuser. Et qui répond pas quand on l'appelle, et que voilà, ça c'est un peu plus. Et donc on a mal géré ça. Oui. Et donc il te restait qu'une solution, à mon avis, c'est l'exfiltrer, parce que tu imagines Rabiot s'entraînant, tu es obligé de le faire s'entraîner avec les, avec des mecs pros, la commanderie. S'entraînant à la commanderie.
Le garder s'il ne trouvait pas un autre club.
Et toi, c'était le même problème que Paris avait avec Donnarumma et Chevalier. T'imagines Chevalier qui joue en Ligue des Champions, Donnarumma, il est à l'entraînement, il te regarde. Tu fais une boulette, tu es mort.
Il fallait bien se séparer de l'un ou l'autre.
Voilà, il fallait dégager. Donc tu as dégagé Rabiot. Maintenant, le problème, il te faut reconstruire un groupe.
Oui.
Parce que tu vas te retrouver avec 4-5 nouveaux joueurs.
Avec tous ces nouveaux joueurs, évidemment une douzaine, et 4-5 joueurs qui défensivement, seront une base qu'on n'avait pas jusqu'à présent.
C'est des mecs qui n'ont jamais joué ensemble, parce qu'en plus, que ce soit Guernes, que ce soit Pavard, que ce soit Vermaren, que ce soit O'Reilly, ils sont tous en équipe nationale, ils ne seront pas là à la commanderie.
Oui. Pour travailler
contre Lorient, ça devrait passer parce qu'il y a quand même une marge.
On va dire ça comme ça.
Mais
ouais.
À Madrid, contre PSG, à Strasbourg et contre l'Ajax, ça peut être compliqué. Nous verrons bien.
Et Strasbourg par la suite également. Tout va s'enchaîner.
Ouais. Ça veut dire qu'on connaît Marseille. Si tu as 2-3 mauvais résultats, j'en rajoute que. Moi, j'étais au stade, je suis abonné, je l'avais déjà dit un paquet de fois.
Et oui,
contre Paris FC, quand Paris FC revient à 2-2, les virages ont lancé, allez l'OM, tu encourages, tu cries, tu chantes, tu commençais à avoir des sifflets en tribune. Parce que tu as beaucoup de touristes, en plus tu es au mois d'août, tu as beaucoup de touristes et tout. Et
en même temps, il y avait l'actualité brûlante qui...
tu as eu l'histoire Rabiot au milieu, il ne fallait pas que Paris marque un troisième but. Parce que là, on était mal tourné. Ouais. Et donc, il faut faire attention... tu as une équipe qui fonctionne en permanence en crise. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que n'oublions pas que on soutient notre équipe, même si on peut être critique sur des trucs, on soutient notre équipe.
Finalement, ne nous voilons pas la face. Nous connaissons l'OM, on vit l'OM. On est toujours en phase critique, on est toujours en mini-crise, entre guillemets, qui est le moteur de ce club.
Ça fait plus de 60 ans que je vais au stade, j'étais tout petit, j'allais avec mon père et mon parrain, plus de 60 ans que je vais au stade, j'ai toujours vu ça, quelques mauvais résultats, ça siffle, ça gueule, je trouve même que c'est moins agressif qu'il y a 10, 15, 20 ans.
Il est vrai.
Moi j'ai vu des joueurs sortir dans le coffre de la bagnole caché, du centre d'entraînement, à l'époque c'était pas la commanderie, à commencer par Dugarry, qui critique tout le monde.
De Lumini, lui a été dans le coffre d'une voiture également.
Il était dans le coffre de la bagnole et les mecs, ils attendaient, ils mettaient les coups de pied dans les voitures. Ce qui n'est pas intelligent du tout,
On
est bien d'accord. Mais quand même, tu peux avoir des réactions et c'est vrai que tu as, et contre Paris FC.
Oui.
Heureusement que tu as des Højbjerg, des Aubameyang qui sont des vieux routiers, qui t'ont calmé, qui t'ont parlé, qui sont venus.
On va avoir besoin de cela, justement, cette présence, je dirais, d'expérience qui permettra de canaliser tout cela.
Ouais. À ce niveau-là, le choix de Pavard et Aguerd, joueur très expérimenté, est un excellent choix. Parce que quand tu as joué finale de Coupe du Monde, des finales de Coupe d'Afrique, des demi-finales de Coupe du Monde, des Ligues des Champions...
J'en suis pratiquement sûr. Voilà. Maintenant, faut-il qu'ils se mettent rapidement au diapason et justement qu'ils se mettent avec cette équipe et tous ensemble arriver à créer cette cohésion.
Il va falloir qu'il y ait la paix, que ça se calme. Oui. Je pense, moi...
On tend vers cela, je n'en doute pas.
Je te le disais tout à l'heure, on en parlait, on était d'accord là-dessus, que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de recrues.
Oui.
Tu essaies de changer un peu les têtes et d'amener du sang neuf pour qu'on sorte de l'histoire Rabiot et de, on regarde et Adrien il est plus là, Adrien il est parti, c'est fini maintenant, à chacun de gagner sa place, sachant que tu as, c'est le cas de Vermaelen,
seulement le timing est un peu
court, sachant que Vermaelen le Belge, que O'Reilly le Danois, voilà, sont des gars qui vont jouer leur place en Coupe du Monde.
Oui.
Pavard aussi, Aguerd, normalement il est capitaine en second au Maroc, je pense qu'il n'y a pas de lézard. Oui. Mais c'est des garçons qui vont jouer des places.
Oui.
Et donc, et Pexao, le Brésilien qui va revenir, il joue une place en Coupe du Monde, remplaçant de Vinicius.
Voilà, il va falloir quand même qu'il retrouve son rythme de jeu.
Son niveau, il va falloir qu'il fasse parler de lui en Ligue des Champions. Donc ça veut dire que tu vas essayer de jouer là-dessus. Et ton problème étant que tu n'as pas les automatismes, tu ne te connais pas. Quoi. Voilà.
Donc là, c'est pour les cadres techniques, pour notre entraîneur en l'occurrence, ça va être assez complexe de mettre en place très rapidement tout ce phénomène nouveau pour ces joueurs.
L'entraîneur, après, on va... Bon, puisqu'on va pas, on va s'arrêter très bientôt.
Oui, oui.
L'entraîneur, il y a des critiques sur un fait, c'est que tu as fait une préparation dans une organisation... Et que dès le premier match à Rennes, tu as mis une défense.
Voilà.
Tu as fait reculer Kondogbia en stopper. Tu as mis Murillo à gauche alors qu'il est droitier. Et tu as mis un défenseur central, Egan Riley, arrière droit.
À droite, faire jouer le fils Weah également dans une position inadéquate.
Tu l'as fait jouer ailier gauche alors qu'il est droitier et qu'il est milieu, enfin qu'il est piston.
Donc je veux bien que l'on s'adapte en fonction des manques.
Oui, mais
quand même, une préparation, si on ne peut pas prévoir autre chose ou une parade à une préparation qui peut être... tronqué par des absences.
Voilà, en fait, il te manquait deux blessés à Rennes. Pexao, mais c'est les ligues gauches.
Et ça, on le savait au départ.
Et tu as mis Jonathan Rowe, qui était son remplaçant, qui était là l'année passée, et il te manquait Medina, qui était blessé.
C'est défensivement que ça posait problème.
Tu as fait une composition inédite qui n'a pas du tout marché, puisqu'il a changé à la mi-temps, il s'en est rendu compte. Et tu as fait quand même des choix, même à Lyon, tu as pris des décisions. Tu as fait des choix qui étaient problématiques. Et
bien entendu.
Lui aussi a la pression.
Nadir, etc. C'est une chose. En même temps, Guiri. Quid de Guiri. Qu'est-ce qu'on en fait? Fait-on jouer dans quelle position? Avant-centre, il ne l'est pas. Numéro 10, ce n'est pas son rôle non plus. Mais rôle hybride, peut-être.
Moi, Guiri, à Lyon, je ne critique pas parce que tu jouais à 10, tu étais très bas et tu jouais en contre.
Avant de jouer à 10,
il était sur le banc.
Il
a fait s'échauffer, il n'a pas fait rentrer. Ouais. Il a préféré Vaz qui est très rapide et qui joue en pointe.
En l'occurrence, il nous a marqué un but très joli.
Contre Paris.
Paris, bien entendu.
Mais disons qu'à Lyon, tu peux comprendre qu'il n'ait pas fait rentrer Guiri. Mais quand tu perds, tu as des critiques qui ne sont pas fausses. Mais qui t'affaiblissent, qui te déstabilisent. Et là-dessus, l'entraîneur, il va falloir qu'il soit costaud, qu'il reprenne son groupe en main et qu'il se réorganise rapidement, d'où le scénario, comme on parlait tout à l'heure, d'une défense à trois pour stabiliser, avec des repères. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se rater, parce que ça peut vite devenir critique. Et ça serait... Tu peux te flamber une saison sur un mois ou deux comme ça où tu tournes pas parce qu'après tu as la
tout
pression.
Tout s'enchaîne très rapidement et ça peut aller dans le mauvais sens comme dans le bon sens.
Voilà, là je regardais hier soir l'équipe puisque je regardais le mercato, donc j'ai regardé l'équipe du soir à 23h, où tu avais Vincent Duluc, qui est l'éditorialiste numéro 1 de l'équipe, qui disait l'OM est déjà à 6 points du PSG après 3 journées. D'accord, mais je pense que personne n'a sérieusement cru qu'on allait jouer le titre, je veux dire.
Non, mais
on essaye de ne pas être à 20 points, voilà. Mais... Et disons, mais tu commences à vendre des trucs comme ça, c'est mesquin, qui font que les gens, ils te disent, ouais...
Bon, PSG et Lyon sont à 9 points.
Oui, même fait.
Ils ont fait carton plein sur cette première journée, donc nous, on est à 3 points. Bon, évidemment, il va falloir beaucoup perdre de matchs. C'est compliqué.
Moi, j'ai vu Lyon à Lens la première journée. Ils gagnent, tu te demandes par quel miracle. Voilà, c'est un miracle. Après, ils reçoivent Metz, qui est déjà à côté de la porte de l'ascenseur pour redescendre.
Oui, ils sont en phase.
Qui est l'équipe la plus faible du championnat, qui a 0 point en 3 matchs.
Pour l'instant,
Et donc, Lyon, ils ne resteront pas premiers, je veux dire. Et Paris, je pense que sérieusement, personne ne pensait qu'on allait les titiller et leur passer le vent.
L'objectif étant le même que sur les saisons précédentes, se qualifier en Ligue des Champions. Alors bon, deuxième, troisième place.
Mais
il ne faut pas perdre le bénéfice des matchs disputés.
J'entends des trucs et j'en terminerai là-dessus. Paris a joué Angers au Parc des Princes la deuxième journée, ils ont battu 1-0. Ouais. Tu as des cons, ils te disent Angers, ils n'ont pas osé, Angers, ils ont 25 millions de budget à l'année, Paris, ils ont 900 millions. Et Angers, ils voulaient se faire prêter un joueur de Lens, ça a été refusé par la DNCG parce que le salaire, Labo Lascariste, en remplaçant Lensois, il est parti à Brest finalement en prêt. Faisait dépasser le budget et donc ils ont refusé le prêt d'un mec.
Oui, ça je me souviens de cette histoire.
Il y a une semaine. Les mecs, ils ont vendu leur avant-centre, leur meilleur joueur, le Paul à Rennes, parce qu'ils sont obligés pour avoir le fric. Voilà, et du coup, ils se démerdent. Ils sortent un gamin de 18 ans.
On ne peut pas justement parler d'opposition à cette équipe-là.
Voilà, après, les mecs te disent ils n'ont pas tenté leur chance. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent
Ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Bien contents de ne pas prendre une valise. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ça va être le cas de beaucoup de monde. Paris, en 2 transferts, ils ont fait 120 millions d'achats. En 2 joueurs. Mais Strasbourg, Strasbourg, c'est en 15 mecs, c'est en 15 joueurs.
C'est sur 15 ils ont pris même 18 joueurs, 17 ou 18, me semble-t-il. Pour quel ratio, nous verrons cela en fin de saison.
Oui, après, ils devraient avoir parce qu'ils ont pris des mecs quand même, une certaine qualité, beaucoup de jeunes. Mais enfin, il faudra se les faire, ça ne va pas être facile.
Un sacré challenge pour le staff technique, pour l'entraîneur.
Il va falloir qu'il fasse prendre la mayonnaise. Nous verrons bien.
Alors, affaire à suivre, bien entendu, en ce qui nous concerne, comme nous le disions, on est en pleine trêve internationale, donc nos internationaux ne seront pas présents pour travailler, justement. Malheureusement, reviendront très bientôt, c'est-à-dire... face à Lorient le 12 vendredi pour la 4e journée.
Avec le problème, c'est que les internationaux sont rentrés mercredi.
Oui.
Seulement, comme on joue le mardi à Madrid en Ligue des Champions, tu es obligé de jouer le vendredi parce que sinon, tu n'as pas le délai de récupération suffisant.
Après, c'est sûr que là,
tu risques d'avoir les mecs qui viennent d'Argentine.
Parce qu'on va enchaîner du mardi 16 septembre à Madrid et on enchaînera la 5e journée, on recevra le PSG, le 21 septembre. Donc, ces enchaînements-là, justement, il va falloir s'y préparer.
En 2 semaines, tu auras 4 matchs, dont 2 de Ligue des Champions et le PSG et Strasbourg en championnat. Madrid et l'Ajax. Et le PSG et Strasbourg à Strasbourg en championnat en 2 semaines. Ça va être craignos. Tu vas avoir besoin de banc. Le problème du vendredi 12, tu reçois Lorient, c'est que tes mecs qui viennent d'Amérique du Sud, ils sont rentrés mercredi. En se payant 12 heures d'avion. Donc tu risques d'avoir des mecs sur le banc. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de blessés, parce que ça va être complexe.
L'espoir fait vivre et permet d'espérer, c'est le cas de le dire, et reste un positif, évidemment.
Et nous verrons bien. Il en a de soi. De toute façon, on va en reparler pendant toute la saison.
Oui.
En espérant que ce soit positif et qu'on ait des résultats positifs à se mettre sous la dent.
Ben, nous pourrons justement parler de tout cela dans quelques jours, quand Thierry, on pourra avec Thierry, nous pourrons développer au niveau des matchs de Ligue des Champions à venir. D'ailleurs, le programme, nous l'avons, hein, voilà, c'est... Il y a OM Ajax dont tu parlais, ça sera, voilà, l'enchaînement se fait avec le Sporting Portugal où nous aurons joué le 22 octobre.
Après,
on recevra l'Atalanta de Bergame, voilà, le 5 novembre, le mardi 25 novembre, l'OM recevra, nous recevrons Newcastle, les Anglais que nous avons dans notre pool, dans notre groupe.
C'est pas un cadeau.
De phase Newcastle. De ligue. Ouais. Oh non, que ce n'est pas un cadeau. Ensuite, nous irons voir les Belges, l'Union
Saint-Gilloise. On aura vu Bruges juste avant Newcastle. Ouais, et on termine, mais là, on aura une équipe qui devrait tourner en recevant Liverpool.
Et voilà.
Voilà. Donc les optimistes diront l'équipe sera prête pour Liverpool.
Ben, restons optimiste, tout à fait, totalement.
Voilà, voilà. On découvrira Alexander Isak et Florian Wirtz, qui eux, par contre, risquent de s'être intégrés à leur nouvelle équipe. Mais bon, enfin, nous verrons bien, mais en tout cas, ça sera. C'est pour ça que tu vas au stade, pour ce genre de match.
Évidemment. Voilà, et pourquoi les joueurs veulent jouer ces matchs également.
Voilà, c'est pour ça que Pavard, il vient à l'OM, parce qu'il tient Liverpool au Vélodrome.
Hein. Oui, entre autres. Voilà. Alors, je veux faire un petit aparté, terminer l'émission. Alors, on va passer évidemment d'une division à l'autre, parce que bon, il nous reste Aubagne qui reste à National, vu que Martigues, évidemment, disparaît du fleuron professionnel, et là, c'est l'exclusion qui est confirmée par la DNCG fédérale. Pas de régional, il devait jouer en régional une, et ce n'est pas le cas, donc on va plus. Bon, peut-être. Ils ont fait appel au tribunal administratif pour pouvoir intégrer. Ils vont se retrouver en district. Donc, c'est la fin des haricots pour Martigues. Il nous reste justement Aubagne Herbel, qui est déjà à la quatrième journée, qui a fait 1-1 match nul face à Concarneau, à Delattre, Tassigny, à domicile. Il y a une cinquième journée à venir, vendredi 5. Voilà, ils joueront contre Bourg-Péronna, là-bas, Aubagne. Voilà, et voilà l'aventure pour Aubagne qui est intéressante. Oui. Ils sont dans le ventre mou comme d'habitude, 9e avec 4 points.
C'est costaud, ils sont, en tout cas, ils ont réussi un truc pas mal, c'est qu'ils sont équilibrés. Parce que tu disais Martigues, le problème qui tue Martigues, c'est qu'ils sont montés en Ligue 2, qu'ils ont vu un peu grand, et que entre autres, ils ont fait les travaux à Turquin, plein de trucs. Et
gestion financière désastreuse.
L'équipe pro est en faillite. Ah donc, du coup,
il n'y a plus de statut pro.
Les mecs qui ont l'association FC Martigues, ils ne peuvent pas repartir. Ils sont en dépôt de bilan. C'est la structure pro qui les tue, quoi.
C'est ça.
C'est pour ça qu'ils ne sont pas autorisés en régional 1.
Ils avaient une équipe réserve en régional 1, me semble-t-il. Et ils vont devoir intégrer un district. Si les tirages sont faits un district.
Si l'appel ne fonctionne pas, et malheureusement, c'est... Voilà, parce que c'est la structure pro qui est en faillite, qui évidemment, tu as une Ligue 2, tu as quelques millions de dettes.
Oh là.
C'est pas, à part si tu t'appelles Girondin de Bordeaux, on regarde de l'autre côté, tu t'appelles Martigues, on te dit, monsieur, comment vous allez rembourser
gondoliers riches dans cette Venise provençale. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
En Régional 1, tu as une 6e division, comment tu vas récupérer, rembourser 7 ou 8 millions. Voilà, donc tu es mort. Et c'est ça qui les tue, quoi. Et Aubagne, par contre, ils gèrent de manière très tranquille, un père de famille, comme on dit.
Avec Herbel et les U19 qui sont super.
Ils ont des jeunes intéressants.
De bons renforts,
ils ont des bons jeunes. Hein, on l'a vu contre Paris FC, Kebal. Il a été formé à Herbel. Hein.
C'est vrai.
Voilà, c'était un jeune, il était parti à Reims, mais c'est un garçon qui a des qualités. Donc, eh ben, c'est bien.
Alors, cette année, on a la possibilité de voir les matchs en intégralité de National, fait en l'occurrence de Aubagne-Herbel sur BFM Marseille, ce qui nous permet de les suivre attentivement.
Oui, ce qui est sympa, ce qui permet de voir les matchs. Parce qu'aller le vendredi à Turquin à 19h,
Signé à Delattre.
Ouais, voilà, ouais. À 19h, c'est un peu compliqué.
Série crack, ouais.
Là, c'est sur BFM Marseille. Oui. C'est commenté par des gens sympas. C'est une équipe sympa. Donc voilà, c'est très bien.
Bien évidemment. Donc pour terminer cette émission, je vais parler de la Ligue 1 Arkema féminine. Il y a eu, elles vont commencer leur championnat la semaine prochaine. Il y a eu un petit peu de rififi avec l'entraîneur Gonzalves, hein, qui a été écarté suite à une rixe avec le staff d'une équipe espagnole. Enfin bref, lors de la préparation. L'entraîneur adjoint assure l'intérim en attendant. Bon, elles vont commencer la saison, j'espère, sous de meilleurs auspices.
Oui, parce qu'il y a eu. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a une joueuse suédoise ou norvégienne,
norvégienne,
arrivait d'Angleterre, de Chelsea, qui était là, d'arriver. Son premier jour, elle est arrivée. Ce qu'elle a vu, c'est une baston entre les entraîneurs des deux équipes.
C'est quelque chose.
Donc, elle est rentrée en Norvège.
Oui.
Voilà, donc c'est embêtant parce que c'était une joueuse d'expérience.
Il fallait renforcer cette équipe.
Et là, tu commences en jouant à Lyon, en plus. Ouais. Ce qui n'est pas un cadeau.
Contre une des meilleures équipes de cette division.
Le multiple champion de France, plusieurs fois champion d'Europe.
Ouais.
C'est pas un cadeau, mais espérons que.
Gardons bon espoir.
Oui, que ça se restabilise.
Pour cette équipe.
Parce que tu as eu un recrutement pas mal.
Oui, oui, oui. Il y a eu
quelques joueuses d'expérience.
De qualité qui ont rejoint cette équipe. Ouais.
Voilà.
Totalement, d'accord. Écoute, on croise les doigts.
On croise les
doigts
pour elle.
Pour les filles.
Voilà.
Évidemment. Et on est de tout cœur avec l'OM.
Oui.
Et l'aventure commence à peine.
Et on dit à nos auditeurs qu'on les retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Alors, il n'y aura pas eu de match de l'OM, mais on fera un peu le point.
Oui.
Et on verra si...
Un point global de la situation.
Oui, s'il y a des blessés, s'il y a des trucs comme ça.
Et voilà, nous aurons le plaisir de retrouver Thierry à nos côtés.
Parce que je dois dire que je suis choqué qu'il ait pris ses vacances... À cette période, franchement.
D'autant plus qu'il est allé voir un match à Naples. Mais
Il
a repris le boulot, mais il ne faut pas le dire. Bon, à toutes et à tous.
Et il sera avec nous la semaine
Absolument.
Prochaine. Bisous.
Allez, allez l'OM et à très très bientôt.